Le peloton RMC.
Georges Quirineau.
Allez, venez, venez avec nous, prenez place dans le peloton RMC, c'est le nouveau nom de votre podcast cyclisme, vous en avez l'habitude maintenant, vous nous rejoignez sur Instagram, @pelotonRMC pour avoir toutes nos dernières informations cyclisme, participez, votez aussi, commentez pour qu'on puisse vous faire prendre part à nos débats, la composition du peloton RMC aujourd'hui, puncher leader Jérôme Pinot, bonjour.
Salut Georges.
La légende Christophe Cessieux, ça va?
Ouais, ça va.
T'aimes pas la légende? T'aimes pas?
Si, j'aime bien. j'y crois pas vraiment. Jérôme, quand on dit la légende, il me regarde
pas du tout. Un petit sourire. C'est parce que je suis impressionné d'être à côté d'une légende.
Dès qu'on a un peu grisonnant, on est un peu légendaire en plus. Ça, je trouve.
Mais ça arrivera pas, Jérôme.
Je serai jamais légende, moi, là.
Bah oui, c'est vrai.
Mais au niveau des cheveux,
il y a des cheveux sur le
bout. Ça y est, t'as des poils blancs dans la barbe quand même.
Ça y est, ça fait 3 ans.
Je te regarde pas.
Nos équipiers de luxe, Pierre-Yves Leroux, notre capitaine de route. Salut de Pilou.
Salut, ça me fait plaisir parce que moi, c'est la tête et Christophe, les jambes.
Ouais. Et Pierre Cotier. À la fois notre coureur du dimanche et aussi notre geek de l'équipe. Salut Pierrot.
Salut.
Allez, le sujet qui agite le peloton RMC aujourd'hui, c'est comment Paul Sexas a préparé sa reprise. Ça y est, on y est, semaine du retour de Polo. Le coureur français de 19 ans va disputer à partir du week-end prochain le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est désormais comme ça qu'il faut appeler le critérium du Dauphiné. C'est son dernier grand test avant son premier Tour de France dans un mois. Alors, moi j'ai fait mes devoirs. J'ai lu rmcsport.fr toute la semaine où chaque semaine il y avait une mise à jour pour savoir où en était Paul Sexas, parce que Paul, il a mis toutes ses données, toutes ses sorties sur Strava. Alors ça, c'est Marc Madiot, s'il était son directeur sportif, ça le rendrait fou, puisqu'il déteste que ses coureurs mettent des choses sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, Paul Sexas? Il a fait plein de choses, pour le coup.
Alors, il était donc en Sierra Nevada, c'est la montagne qui est juste au sud de Grenade, avec une station de ski qui s'appelle Prado Llano, qui est une des plus hautes d'Europe, avec la route la plus haute d'Europe. Et ça, donc ça permet de dormir en altitude et de descendre dans la vallée. Alors, il n'y a pas 150 routes non plus autour de Grenade, mais il y a quand même une très longue montée, donc une très longue descente. Grenade-Prado Llano, c'est 33 km à peu près.
Tu as roulé, hein, par là-bas.
Si plus si tu montes un petit peu au-dessus de Prado Llano, ce qu'ils ont fait. Mais et il a monté, descendu et fait tous les cols du coin, et avec un kilométrage assez impressionnant et un nombre de mètres de dénivelé aussi impressionnant, parce que il a quasiment fait un Tour de France.
Mais alors, justement, en Sierra Nevada, il a fait 43 000 mètres de dénivelé pendant ces 2 semaines, et il a enchaîné ce week-end. Il est parti dans les Pyrénées pour reconnaître l'étape du Tourmalet, la 6e étape, où il a fait un peu plus de 7 000 mètres de dénivelé. Donc en fait, ça veut dire le prochain Tour de France, c'est plus de 54 000 mètres de dénivelé. Donc il en a plus ou moins à 50 000 à son compteur. Il a fait le prochain tour, pratiquement, en montagne. Non mais Jérôme.
Il a fait autant de dénivelé que Vingegaard sur le Tour d'Italie. Donc bonne préparation pour les deux, quoi.
Non mais alors c'est vrai que là on a rarement tellement accès aux données, en fait. C'est vrai dans la prépa là, il nous offre tout. Paul Sexas, Jérôme.
À la différence dans ce stage de préparation, à la différence des stages de préparation en altitude où ça va être une acclimatation à l'altitude pour ensuite préparer la saison. Là sur ce stage là, il y a ce qu'on appelle le dormir en haut et s'entraîner en bas, mais il y a aussi du dénivelé à manger, il y a aussi de l'intensité à mettre dans l'entraînement, parce qu'on est à 3 semaines, 1 mois de l'objectif. Donc c'est assez logique qu'il ait fait autant de dénivelé, et après c'est l'intensité avec laquelle il les a fait qui fait la différence avec une compétition. Il a beaucoup travaillé le contre-la-montre, il a beaucoup travaillé aussi les longues ascensions, ce qui va être le menu de juillet, et puis pour m'être un peu renseigné auprès de sa direction sportive, c'est aussi la cohésion de groupe. Passer du temps avec ses coéquipiers, apprendre à se connaître, apprendre les réflexes de chacun, comment réagit un tel quand le matin il n'est pas bonne humeur parce que la veille la séance s'est mal passée.
C'est important ces jours-là dans la tête,
c'est important. Quand tu es leader, c'est très important de connaître tes coéquipiers par cœur, et la même dans l'autre sens. Quand tu es équipier de Paul Sexas, que le 14e jour de stage, il n'a pas fait la séance comme il voulait, ou ses watts n'étaient pas bons, comment va-t-il être le lendemain? Est-ce qu'il est grognon? Est-ce qu'on peut le faire rire pour le détendre? Est-ce qu'il faut juste le laisser dans sa bulle? Voilà, c'est plein de choses qu'on apprend, et ça, on l'apprend qu'en stage. Donc, ce stage-là, il était vraiment axé sur le travail, évidemment, en altitude, avec les intensités qu'il faut, avec le travail du chrono, et le chrono par équipe. On peut s'imaginer qu'une grosse partie de l'ossature qui sera autour de lui sur le tour était avec lui en Sierra Nevada.
Il y avait notamment Mathieu Ricitello, il y avait Nicolas Prodhomme qui était là. Ils ont aussi mis leurs données sur Strava.
Ils seront là. Il y a peu de doutes qu'ils seront là.
Et on a vu Tish
Benoit. C'est sa garde rapprochée. Ouais, mais je pense que Tish Benoit est sur la liste. Hein. Alors maintenant, on va voir ce qu'il va donner.
Tish Benoit qui a raté le début de saison et qui
va reprendre l'avenir.
Comme
Olaf Koy.
Et tous les deux reviennent finalement à point nommé. Maintenant, il va falloir faire des choix. Est-ce que l'équipe est déjà définitivement décidé?
Je pense que Tish Benoit, c'est quand même tu te poses la question. Autant Olaf Koy, on a compris que c'était pas le plan. Autant Tish Benoit, vu l'expérience du bonhomme et après j'étais pas en Sierra Nevada et je sais pas comment ça s'est passé entre eux, mais sur le CV du gars, c'est quand même.
Non, mais moi je veux juste vous dire si Tish Benoit il revient, il a plus mal et il est en forme. Il est incontournable. C'est le premier nom que tu mets sur la liste. Ouais. Mais oui,
Pierre-Yves.
Mais non, je posais la question à Jérôme, ancien manager. On voit toutes ces données. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt secret. On essaye de garder les choses. Est-ce que toi, tu valides ça?
Oui, à 200%. Il faut, pour la crédibilité de chacun, pour emmener le public avec soi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se comparer. Je l'ai toujours dit, moi... ou très ouvertement, quand le coureur du dimanche peut comparer au champion et que peut se comparer au champion, ça fait vivre des vocations, ça donne du plaisir aux gens, t'as envie de te comparer. Quand tu vas sur un circuit de karting, t'as envie d'être dans la peau du pilote de Formule 1, bah là c'est pareil, on a cette chance-là. Pourquoi les cacher?
Oui, mais
pourquoi
pour l'adversité.
Mais de toute façon, l'adversité, moi, mes coureurs, ils voyaient les watts de Tadej Pogacar, ils étaient tout simplement pas capables de les faire. Donc c'est pas très grave en fait. Et tu fais faire le même entraînement à un petit moteur qu'il est en train de faire Paul Sexas, il pète comme un pop-corn. Je veux dire, c'est du travail, de la donnée certes, mais derrière, il faut tout ce qui va avec. Si Paul Sexas, est-ce qu'il s'est fait masser? Est-ce qu'il a vu un psycho? Est-ce qu'il a eu un nutritionniste? Comment il récupérait? Non, mais je veux dire, il y a aussi tous les éléments que tu mets autour du... Je te mets au défi de faire le même stage que lui. Ouais, tu vas mettre 3 ans à t'en remettre. Hein.
Donc, tu t'en remettras jamais même.
Pour le coup, alors effectivement, moi j'ai roulé au début du mois en Sierra Nevada. Et du coup, chaque fois que je voyais Paul Sexas, j'allais regarder ses itinéraires, ses parcours, et tu peux comparer, enfin, chaque segment qu'un tel a fait, Strava te montre quel temps t'as fait toi sur le même segment. Bon, évidemment, faut pas partir dans l'idée que ça va se ressembler, hein, mais c'est vrai que c'est marrant de voir, est-ce qu'il a fait deux fois plus? Enfin, deux fois moins, plutôt. Ouais. Est-ce qu'il a fait trois fois moins? Ah oui, je me souviens, là, j'étais là. Ah oui, il a fait ça en si peu de temps. Enfin, voilà, ça.
Pierrot, tu connais ça aussi, c'est le watt, au watt près. Quelle machine? Comment il a étalonné son matériel, où en est la durée de sa pile? Parce que ça, on sait aussi que si le matériel n'est pas surveillé et mis à jour, il y a des données qui varient. Quel matos toi tu utilises et quel matos lui il utilise? On ne peut pas comparer. En revanche, le chiffre et les chiffres en eux-mêmes parlent et nous donnent envie. Alors, et dans une espèce de subconscience, dit « Ah ouais, on admire ça, encore plus quoi ».
Ça donne aussi du grain à moudre à tous ceux qui... sont évidemment suspicieux quant aux performances. Je veux dire, il y a des mecs comme Vaillé qui se font un plaisir, évidemment, quand ils voient ça, pour dire « Ah ben voilà, regardez les mutants et tout ça ».
Toutes les fois où on se disait, par exemple, ceux qui vont au volcan Teide, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, il y a quelque chose d'un peu mystique. Là, au moins, on met tout sur la table. Après, voilà, c'est des données Strava. Hein.
Moi, je trouve qu'il est dans l'air du temps et il est dans sa génération et il est raison de le faire.
Est-ce que ça nous dit quelque chose sur son état de forme?
Alors,
qu'on l'a pas vu, je rappelle, depuis Liège-Bastogne-Liège, à deuxième place, contre Pogacar.
Moi, je me suis
toi,
pas servi...
Parce que toi, tu sais analyser ces données-là.
Non, mais par contre, je me suis pas servi de Strava, j'ai appelé 2-3 copains qui étaient avec lui là-bas, a priori, ça va pas mal.
Alors,
après, les watts, tu peux pas savoir, si on n'a pas la base, on connaît pas ses seuils, on connaît pas ses niveaux d'intensité. On sait que sur le dernier Liège-Bastogne-Liège, il a développé, pendant les 7-8 secondes au pic, tant de watts. Est-ce qu'il va les refaire? Est-ce qu'il en a besoin de les refaire sur ce stage-là? Non, parce que on travaille la longue ascension. Donc finalement, on peut comparer quelques points. Pierrot, je suis d'accord, mais ça ne va pas nous donner savoir s'il va être en très grande forme au tour ou pas. Par contre,
au tour Auvergne-Rhône-Alpes déjà ce week-end.
Alors, risque de fumer sévère.
En fait, il a quand même, notamment sur les étapes des Pyrénées, marqué le coup. Et en publiant ces trucs-là, il a quand même... Oui, prévenu la concurrence.
Il a fait une petite montée du Tourmalet, pas dégueulasse.
Il a quand même la montée du Tourmalet qu'il fait. Il bat sur un segment, il bat le com de Lenny Martinez et de Ben O'Connor, qui étaient quand même en échappée au Tour de France. Donc il a battu. Alors évidemment, c'est pas les mêmes conditions. Il a pas.
Il n'y a pas eu deux semaines de course
voilà,
avant,
etc., pas... etc. Mais quand tu mets 1 minute 20 à des mecs qui se faisaient la peau en échappée du Tour de France, c'est quand même pas rien, en fait, sur une montée de sur un segment de 20 minutes et des brouettes. C'est pas rien.
Ça donne un indice. Ça nous donne...
Oui, mais celui-là, est-ce qu'il ne faut pas le cacher, justement ?
Non. Après, ça, c'est un choix.
Qui va arriver dans une très, très grande forme au Tour d'honneur Auvergne-Rhône-Alpes, il ne faut pas le cacher.
Ça donne un indice. Ça donne un indice sur son état de forme.
Il est super forme. Il est en super forme. Mais heureusement, il descend d'un stage. Il va faire le Dauphiné, enfin le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir du mal. Et derrière, il y a encore suffisamment de temps pour être encore mieux au Tour, pour surcompenser. Les données sont bonnes. Je vous rassure, la photo prise où on a l'impression qu'il avait pris du volume. J'ai eu quelqu'un avec lui, m'a dit qu'il n'a jamais été aussi transparent. Donc, il n'a pas pris de volume. Donc, tout va bien. Tout va bien. Après, il a besoin de se tester. Il envoie quelques signaux. Est-ce qu'il a besoin de les envoyer ? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Il joue. Il ne faut pas oublier que cette génération-là, elle joue sur le vélo. Ces outils-là, il a appelé son pote qui courait avec lui en régional il y a 4 ans pour lui dire « T'as vu, j'ai pété le com. » Voilà, c'est au plaisir qu'ils le font. Et ça, ce n'est pas pour nous envoyer des messages à nous en disant « Vous avez vu, je suis en forme. » Il est en forme, ça c'est sûr.
Alors, est-ce que, donc le Tour Auvergne-Rhône-Alpes qu'on va présenter jeudi dans le roadbook du peloton RMC, hein, tout en détail, comme ça on vous aide à savoir comment ça va se passer exactement, la start list précise. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit à 100%? Il avait fait 8e l'année dernière pour sa première participation, on va pas comparer.
Il avait morflé,
non, mais il était encore entre guillemets semi-pro. Franchement, Christophe, est-ce que toi, tu t'attends...
Il y avait encore des morceaux de coquille sur son casque.
Est-ce que c'est important que Paul Sexa se soit à 100% et joue la gagne sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Bah, écoute, je ne sais pas si c'est important. C'est important pour nous, pour nous enthousiasmer avant le départ du Tour de France. Moi, je pense qu'il va faire un résultat qui va être canon. Je ne sais pas s'il va remporter ce Dauphiné, mais évidemment, quand on voit ce qu'il a fait pendant cette préparation, on peut l'imaginer. Et moi, j'ai envie de le voir s'imposer de manière à ce qu'on soit encore plus enthousiaste et qu'on se dise mais pourquoi pas aussi inquiéter et Pogacar et Vingegaard sur le Tour de France. Donc c'est psychologiquement c'est important de marquer les esprits et de montrer sa place quoi.
À 100% sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ou quand on descend d'un stage comme ça, moi je me rappelle deux fois on se disait bah, regardez David Gaudu par exemple, il a pas bien géré la redescente de l'altitude, c'est un peu pile ou face. Je me souviens de ce que nous disaient les directeurs sportifs, notamment Philippe Mauduit de l'équipe Groupama FDJ à l'époque. C'est un peu pile ou face quand même aussi, quand même, quand on descend de stage comme ça.
C'est pas pile ou face dans le sens où il connaît. Il a déjà fait des stages en altitude et ils sont allés se préparer longtemps en altitude parce qu'ils savent que ça lui fait le plus grand bien. Pourquoi ça fait beaucoup de bien, et c'est pas faire offense à David Gaudu évidemment, qu'on aime beaucoup, c'est que c'est un énorme moteur. C'est un moteur incroyable et dans la haute altitude et dans les conditions où on est en déficit d'oxygène, c'est les gros moteurs qui s'en sortent et ça leur fait du bien à eux. J'ai fait des stages avec Chavanel, je peux vous dire qu'on ne ressortait pas du tout dans le même état de forme. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc lui, c'est une vérité.
C'est comme ça,
bah
c'est la vie.
Mais moi, ça me mettait KO complet parce que Piccolo Moto et voilà, c'est tout. Mais par contre, il ne faudra pas non plus tirer de conclusion à la suite. En revanche, il ne va pas se louper. Il se loupera pas. Ouais, s'il se loupe, c'est une maladie, mais il va pas être nul. Tu vois
Mais tu penses est-ce qu'il faut qu'il aille pour jouer la gagne?
Il va gagner.
Est-ce que c'est important?
Enfin, il va pour gagner. Et s'il est battu par Del Toro, bah, on pourra se dire que Del Toro sera équipier de l'autre. Mais c'est tout. Il va être, à mon avis, très très fort sur l'ensemble de la semaine. Est-ce qu'il va gagner? J'en sais rien. Mais il faut pas qu'il soit.
Si c'est pas un top 3, c'est.
Non,
c'est
vrai, ça veut rien dire ça. Non, ça veut rien dire.
Non, mais
ça dépend comment tu fais le top 3.
Tu viens sur le tour et que bah tu vises quand même un top 5 et puis sur le Dauphiné qui est la dernière préparation où qui gagne c'est Pogacar, c'est Vingegaard, c'est
si t'es à 5 minutes de Del Toro, oui, tu t'inquiètes.
Oui, bah, et puis on est quand même dans des formats où on sait que Paul peut performer puisqu'on l'a vu sur le Tour du Pays-Bas.
Oui,
les courses d'une semaine, c'est aujourd'hui pour l'instant dans sa cible. Donc je pense qu'il peut
en tout cas il y va pour gagner, il va faire l'effort total sur l'ensemble de la semaine, ce qui ne va pas être un problème pour le Tour. Parce que ces besoins de compétition, on en a moins besoin quand on a 18 ou 19 ou 20 ans comme lui que 25 ou 26. Et derrière, il aura suffisamment de temps pour se remettre et être de nouveau performant. Donc, il va sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes bah, pour se le mettre au palmarès. Hein. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Hein.
Tu penses, Pierre ? C'est important qu'il y aille à 100%, qu'il y aille pour jouer la gagne ?
Bah, bien sûr, de toute façon, est-ce qu'il fait des courses pour pas jouer la gagne maintenant ?
Ouais, c'est ça, bah, non, mais c'est vrai. Non, mais comme t'as raison, comme c'est son mindset en fait.
Il vient pour jouer la gagne et puis il espère que ça va le faire. Et puis si ça le fait pas, comme au Tour d'Algarve, bah, il aura quand même marqué des esprits. Et puis c'est le but. Hein. Le but, c'est de, un, se faire plaisir, deux, gagner, parce que c'est comme ça qu'il se fait plaisir. Et après, oui, mais bon, à 19 ans, le palmarès, enfin, tu vois. Je comprends que ça compte quand t'es Vingegaard et que tu réfléchis, ouais, j'ai gagné les trois grands tours, c'est quand même, on n'est pas beaucoup. Là, à 19 ans, ton palmarès, il est à construire encore. Donc. Tant mieux.
Il y aura Isaac Del Toro, il y aura notamment Skelmose, Ayuso, il y aura pas Remco Evenepoel hein, qui a renoncé finalement à son calendrier, à cette course, mais on va tout vous détailler. Vous pensez que Pogacar, tiens juste dernière question, pensez que Pogacar il regarde le compte Strava de Paul Sexas et il va regarder le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ?
On doit lui communiquer.
Il commente parfois.
Bien sûr.
Il commente les publications.
Mais oui, parce qu'il fait partie de cette génération qui a toujours le nez sur les données des adversaires.
Oui, mais par intérêt. Par crainte, non. Par méfiance.
Non, mais ça l'intéresse.
Lui,
ça l'amuse.
Son Strava à lui, ouais. Je pense. Mais après,
ça l'anime, ça fait partie de ses sources de motivation avant le tour, vous pensez ?
Tiens, bah oui.
Il a l'air bon.
Bien sûr. Ouais. En France,
il
a l'air en plus.
Ah bah là,
il est chaud,
Polo.
Ouais, ça,
c'est
chaud.
Clair qu'il va arriver
avec... il le pense en...
Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de le
rosser.
C'est
le
ouais. Donc, pour rosser un gars, il faut quand même qu'il soit là, donc...
Eh ben écoute, bah peut-être qu'il écoute d'ailleurs le peloton RMC. Hein,
évidemment,
il est avec Pogacar.
C'est sa mère qui lui traduit.
Ah ouais, tiens, ils ont changé de nom. Je vais m'abonner sur Instagram, comme tout le monde, à @pelotonRMC pour suivre toutes les publications. Merci les gars, jeudi on vous détaillera le parcours, les adversaires et les dernières infos du Tour Auvergne-Rhône-Alpes dans le roadbook du peloton RMC qui vous présentera à chaque fois les enjeux des courses et nos pronos aussi. Surveillez les réseaux sociaux avant les épreuves importantes du calendrier. Merci à tous et rejoignez le peloton RMC.
Le peloton RMC.